Kinshasa. Je suis tout à fait
moi, d'accord. Moi, c'est André de Mbujimayi au Katanga oriental. Je réfute totalement ces questions.
Moi, c'est Céline de Lubumbashi au Katanga. Je pense qu'on peut, en combinant les deux avis de mes précédents, trouver une solution par rapport à ça.
Bonjour et merci de votre fidélité à la fréquence de la paix Radio Okapi qui vous propose ce nouveau numéro des paroles aux auditeurs. Quelques grandes villes de la République démocratique du Congo connaissent un regain d'actes de criminalité ces derniers temps, notamment à Matadi au Congo central et Lubumbashi dans le Haut-Katanga. Ces actes concernent les attaques des maisons des habitants par des bandits à main armée. Et selon vous, quel pourrait être le mécanisme efficace pour mettre fin à ces actes de criminalité? Vous pouvez proposer des pistes et des solutions au 081 890 49 69, mais également sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Jean-Noël Mokondo est à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Pierrot et la Meiji, j'ai le réel plaisir de vous les présenter, fidèles auditeurs. Bienvenue à tous.
Mario,
tout le monde sait.
Les grands succès musicaux d'ici et d'ailleurs ont désormais un espace qui leur est spécialement dédié sur votre radio. Gold Music vous fait voyager dans les temps avec une belle sélection bien métissée. Votre belle époque à travers la radio, c'est dans Gold Music. Du lundi au vendredi, de 16h05 à 17h, heure de Kinshasa, sur Radio Okapi, la radio de toutes les musiques.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiookapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Meiji.
Des hommes armés non autrement identifiés pénètrent dans des maisons des paisibles citoyens. Ils commettent des actes qui vont des viols, du vol à des meurtres. Ils sont armés des armes à feu et des fois des armes blanches. Comment arriver à réduire et mettre fin à ces actes de criminalité dans les grandes villes de la RDC? Vous êtes nombreux à vouloir commenter ces sujets. On se retrouve sur la page Facebook des paroles aux auditeurs. Nous avons en ligne des Matadi au Congo central, Maître Guilhem Kangibé Beni Zola, du lobbying pour la défense des intérêts du peuple. Maître Kangebeni, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour, cher Pierrot.
Merci d'avoir accepté de commenter avec nous ces sujets. Quelle est la situation ces derniers temps à Matadi? Parce qu'on sait qu'il y a eu beaucoup de cas d'insécurité répertoriée dans la ville portuaire. Quelle est la situation actuellement?
Oui, d'entrée de jeu, il faudrait dire que la situation sécuritaire au Congo central en général et singulièrement dans la ville de Matadi est relative. Parce que il y a depuis un certain moment que nous avons connu des cas de crimes dans des maisons, dans les hôtels de la place. Mais il se fait que depuis que nous avons le nouveau général, il faudrait signaler que la situation sécuritaire est relative.
Mmh. Mais alors, vous êtes avec la population, vous militez d'ailleurs pour la défense de la population. À quoi sont dus ces cas qui ont été enregistrés dernièrement, que ce soit à Matadi ou dans les autres grandes villes du pays?
Et certainement, dans les cas de notre structure LDP, Lobbying pour la défense des intérêts du peuple, nous avons eu à initier un travail de fond. Et d'ailleurs, les conclusions de ces travaux ont été présentées au gouverneur intérimaire à l'époque, je me rappelle, Mantumpa, pour que nous puissions booster cette histoire qui est ici du décret du Premier ministre instituant les centres locaux de sécurité de sécurité de proximité, qui n'a jamais été mis en application jusqu'à ce jour. Et nous avons travaillé sur le dit décret et avons proposé les conclusions qui peuvent tant soit peu permettre à ce que notre population vive dans une quiétude. Je ne dis pas qu'il faudrait que l'insécurité prenne absolument et totalement fin, mais la situation soit quelque peu améliorée.
Mmh. Mais alors, est-ce qu'il y a-t-il des raisons particulières qui causent cette insécurité?
Oui, justement, il y a, parce qu'il ne faudrait pas que nous puissions nous voiler la face. Il faudrait signaler qu'il y a des gens, les hommes en uniforme, armés, qui dérange la quiétude de paisibles citoyens. Alors on s'interroge de savoir est-ce qu'ils sont réellement des vrais policiers ou des vrais militaires pour qu'ils parviennent à commettre ces actes répréhensibles. Ou s'ils ne sont pas des hommes identifiables dans l'armée ou dans la police, donc ils sont des gens qui sont nantis de tous ces éléments pour causer du tort à notre population.
Alors, on sait qu'il y a eu des personnes qui ont été arrêtées, présentées, n'est-ce pas, à la presse par la police. Y a-t-il eu des procès aujourd'hui à Matadi des auteurs de différents crimes qui ont été appréhendés?
Non, il n'y a jamais eu procès à ces jours, à moins que je n'aie pas l'information. Mais je suis un avocat, je suis à tout moment au palais, je n'ai jamais vu et moins encore entendu qu'il y a un procès sur les camps en question.
Mais alors, il y a des gens qui ont été présentés devant la presse comme auteurs de différents crimes dans la ville de Matadi.
Mais justement, cette façon de faire n'est pas tout à fait correcte. Et même lorsqu'on présente les gens à la presse, cela voudrait dire quoi? La justice s'est rendue? Non. Et s'il faudrait aller plus loin dans cette présentation, il faudrait relever dans les chefs de ceux-là qui présentent une certaine série d'infractions, ce qui n'est pas normal, parce que même s'ils sont réellement criminels, ils bénéficient de la présomption d'innocence. Et lorsqu'on présente les criminels aux médias pour dire qu'ils sont réellement criminels, alors qu'il n'y a jamais eu un jugement qui a été rendu dans ce sens. Donc vous voyez que ce n'est pas une solution idoine. C'est une façon pour amadouer, donner un message fallacieux à la population qui, en réalité, attend des autorités policières, judiciaires, des décisions utiles qui puissent permettre à ce que la population vive dans la quiétude. Mais lorsqu'on se limite à présenter les gens aux médias, mais justement, c'est de la mascarade, ce n'est rien. Moi, je pense qu'on pouvait ne pas présenter les gens aux médias, mais que les appareils censés rendre justice à tous les niveaux, la police, le parquet et les types de cours et tribunaux, fassent leur travail. Moi, je crois que c'est ce qui serait le mieux. Nous avons connu des criminels, de vrais criminels qui ont été arrêtés, qui n'ont jamais fait l'objet de publicité aux médias, et lesquels ont été condamnés. Parce que chaque jour, il y a des vols. Si vous allez dans les cours et tribunaux, vous trouverez qu'il y a des procès. Est-ce que tous ces procès-là ont toujours fait l'objet de publicité? Non. Mais lorsqu'il y a des morts, on se limite à brandir des gens aux médias, c'est une sorte de publicité non souhaitée, alors que la presse n'est pas rendue, ce qui n'est pas confort.
Alors, on va revenir à vous, Maître Gangebeni. Vous l'avez dit, il ne suffit pas seulement de présenter des criminels aux médias. On le voit à Lubumbashi, ça s'est fait à Kinshasa, à Goma dernièrement d'ailleurs, des criminels ont été présentés devant les médias. Mais il faut vraiment qu'on organise des procès et que les procès puissent aller jusqu'au bout. Et c'est aussi une façon de dissuader ceux qui voudraient et se lancer dans ce genre d'aventure. On vous garde en ligne, Maître Guilin. Le temps d'écouter aussi d'autres compatriotes à travers le pays, comme ici à Kinshasa, Félicien Kalala. Vous êtes avec nous, bonjour. Félicien Kalala, vous êtes avec nous, bonjour. Des petits soucis, des lignes. Ah, voilà, c'est Félicien Kindoula plutôt qui est avec nous. Félicien, vous êtes avec nous, bonjour.
Oui, c'est Félicien Kindoula, je suis là. Bonjour, Pierrot. Bonjour à tous les auditeurs de Radio Capi et bonjour à l'invité.
On vous écoute, oui.
Ah oui, écoutez, quand vous suivez ce que l'invité a dit, vous constatez que quand l'État met les moyens, met le sérieux dans les services de sécurité et dans la justice, l'ordre devient rapidement. Mais quand on dit à l'État que ce phénomène, cette insécurité est due à l'absence de l'autorité de l'État, les médiocres de chez nous réplique pour dire que dans toutes les grandes villes, il y a l'insécurité. Il nous compare à New York, à Washington, à Londres, et ainsi de suite. Et il compare notre pays à ces pays-là pour justifier leur incompétence. Mais jamais ils ont comparé l'époque de la Deuxième République où il y avait vraiment de la sécurité, du calme, où nous, on était encore des jeunes gens et on passait la nuit dehors et on rentrait à la maison à 5 heures du matin, 4 heures du matin et parfois à pied, on n'avait aucun problème. Ça, ils n'ont jamais comparé. Et donc, tous ces phénomènes-là démontrent souvent qu'il y a les ras-les-bols dans la population. il y a la méfiance de la population vis-à-vis des institutions, de la politique du pays, et les gens commencent à faire leur tête. Et quand l'État n'est pas organisé aussi pour leur barrer la route, et c'est ce que nous vivons. Et ça apparaît souvent, et ce sont des signes qui montrent que ça ne marche pas, donc, du point de vue politique, et ça ne marche pas du point de vue économique, et c'est le résultat. Mais ils ne les reconnaissent pas, ceux qui dirigent le pays, ils ne reconnaissent jamais cela. Et ils trouvent toujours des faux fuyants pour justifier leur médiocrité. Donc, je pense que si on veut vivre en paix dans nos pays africains, nous pouvons vivre. Nous ne pouvons pas nous comparer avec des grandes mégapoles occidentaux, et parce que là, les crimes, excusez-moi, les gens sont tous libres d'avoir des armes, de s'acheter des pistolets, ils vivent comme ça. C'est presque le libertinage, la liberté est devenue libertinage dans ce pays-là. Mais ce n'est pas le cas chez nous, en Afrique. Nous sommes encore sous des dictatures, mais on appelle ça démocratie. Quand il s'agit de justifier leurs avantages, mais en réalité, c'est ici qu'il devait régner l'ordre, parce que nous sommes sous des dictatures démocratie, comme sous l'époque de la Deuxième République. On pouvait vraiment vivre tranquillement, on pouvait mettre de l'ordre et les gens pouvaient se promener librement.
Merci Félicien, pour vous, c'est une question de l'absence de l'autorité de l'État. Cela veut dire qu'il faut que l'État mette du sérieux dans l'organisation et l'encadrement des services de sécurité, ainsi que la police. Hein. Il faut que cela d'abord soit reconnu par ceux qui dirigent, qu'il y a faiblesse de l'autorité de l'État. C'est pourquoi il y a cette augmentation des criminalités. Merci beaucoup. Kachayou, vous êtes à Kananga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Monsieur Pierrot, bonjour à l'invité et à tous les auditeurs de la radio Okapi.
On vous écoute.
Merci beaucoup Monsieur Pierrot. La situation sécuritaire à nos villes est très préoccupante, dans le sens que ici à Kananga par exemple, Monsieur Pierrot, nous sommes en train de vivre ces jours une situation embêtante dans tous les quartiers, dans toutes les localités, sur toutes les avenues. Les gens ne passent toujours la nuit à la belle étoile. Ils se sont mobilisés pour commencer à assurer leur propre sécurité parce que les services de sécurité ont failli à leur mission. Récemment, dans le quartier Bianchi, dans la commune de Kananga, au centre-ville, il y a des bandits à main armée, en tenue militaire et policière, qui ont fait une incursion dans une maison habitée. Et la police est intervenue. 5 minutes après l'accrochage, les bandits sont partis, les policiers sont partis, les bandits sont rentrés encore dans la même maison, ils ont volé, violé et pillé les biens. Ils sont partis. Interrogés, les commandants de la ville, M. Pierrot, déclarent qu'ils n'ont pas de moyens pour faire des interventions urgentes. Vous allez comprendre que, la police n'a pas de moyens pouvant lui permettre à faire des interventions urgentes. De deux, les policiers, certains, ne sont pas payés, parce que c'est ce que nous avons un peu découvert par la suite, que certains ne sont pas payés. Dans cette situation-là, des manques de salaire, ils font des actes pouvant leur permettre à avoir quoi manger, et ils créent l'insécurité. Bon, même s'ils disent que ce ne sont pas les policiers, les militaires qui créent l'insécurité, mais je vous affirme, selon nos enquêtes menées sur terrain, que ce sont eux. Parce que comment ça fait-il que même l'administrateur du PAM a été visité par les hommes en tenue policière et militaire? C'est pourquoi nous voulons au moins demander, comme l'État a failli à sa mission et la population s'est mobilisée, on ne s'est pas passé la nuit paisiblement, alors si on peut autoriser à la population de s'acheter des armes, parce que ces gens-là viennent avec des armes AK-47, ils ont des munitions de guerre, ils ont trouvé tout ça où? Ils pouvaient avoir même des armes de chasseurs, on pouvait comprendre, mais ils ont des armes AK-47, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui sont en dehors des services de sécurité. Et ce sont des gens qui œuvrent dans ces services-là. C'est ainsi que la population, si le gouvernement peut autoriser à ce que nous puissions, comme aux États-Unis, tout le monde a son arme dans la maison, pourvu qu'il peut faire la défense lorsqu'il est agressé. Deuxièmement, monsieur le journaliste, dans tous les quartiers, on peut installer même un service de sécurité. Mais chose bizarre, nous avons des sociates partout. Nous avons des cachots un peu presque partout des policiers. Nous avons la présence militaire, présence policière dans tous les quartiers. Mais les gens pillent là-bas, ici on ferme. La police n'intervient même pas. Alors comment vous pouvez imaginer cette situation-là? Je pensais peut-être que comme les autres, ils disaient que c'est à l'époque des Kabila où l'insécurité était gangrénée, la population, les gens ne pouvaient pas faire parce que le régime avait totalement abandonné la population. Maintenant, nous sommes dans une alternance. Si les gens disent qu'ils aiment Tshisekedi, mais pourquoi il y a tous ces actes-là? C'est pourquoi moi je propose qu'on puisse d'abord procéder par le changement du commandant de la police ici à Kananga, au Kasaï central. Que le général là soit d'abord remplacé par quelqu'un comme on a fait ailleurs, pourvu que s'il part, celui qui viendrait, il viendrait peut-être avec d'autres stratégies sécuritaires pour pouvoir savoir comment sécuriser
merci.
La population.
Merci beaucoup Katiaï, merci beaucoup Katiaï d'être avec nous de Kananga et surtout de ces témoignages. Vous avez dit, il y a une préoccupation de l'insécurité à Kananga. La police répond qu'elle ne dispose pas assez de moyens pour des interventions urgentes, mais pour vous, la plupart de ceux qui opèrent, ils portent la tenue des militaires ou soit des policiers. Alors, comment arriver à faire face à cela alors que ces gens, ils ont des armes professionnelles comme des AK-47, vous l'avez dit. Pourquoi ne pas aussi armer la population? C'est pas prévu par nos lois que la population puisse être armée pour se défendre. Faudrait-il encore évoluer sur le plan juridique sur cette question-là? Mais en fin de compte, vous souhaitez qu'il y ait une permutation à la tête du commissariat provincial de la police au Kasaï central. Merci beaucoup. Bathier, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Radio Okapi, je salue d'abord tous nos compatriotes qui nous suivent surtout au Congo profond. Par rapport au sujet, monsieur le journaliste, je pense que la responsabilité, elle est partagée. Elle est partagée en deux parties. La première, c'est le gouvernement, parce que le gouvernement en soi ne prend pas à sa responsabilité. C'est-à-dire que le gouvernement ne parvient pas à sécuriser sa population. Et la seconde responsabilité, c'est à la population, parce que la population, elle devait être impliquée pour sa sécurité propre. Mais malheureusement, chez nous, la population n'a jamais compris que la sécurité, c'est l'enfer de tout le monde. Moi, je pense que même les gens qui commettent des atrocités, ils commettent des viols, tous ces tueries, ils vivent dans la communauté congolaise. Moi, je pense que d'abord, la population devrait plus être attentive et passer l'information, sensibiliser ou dénoncer les gens qui vivent à la communauté. Moi, je pense que ça pouvait faciliter aussi la police ou l'armée à traquer ces personnes-là. Malheureusement aussi, nous avons compris que tous ces bandes qui commettent tous ces crimes, ils vivent surtout dans la communauté. Et la majorité, ils vivent avec les militaires et les policiers. Moi, je pense que le gouvernement devait d'abord chercher à identifier les policiers qui sont normalement policiers, qui doivent faire les services publics de protéger la population. Et à ce moment-là, je pense qu'on peut chercher à lutter tous ces consommateurs de voix. Mais sinon, monsieur le journaliste, déjà vous voyez dans nos villes, si vous entrez dans le camp, c'est là où on voit plus les chambres, les boissons qu'on appelle ici, c'est les ododos, tout ça, ça se passe avec les policiers et tous ces gens-là. Si vous entrez dans des parkings, vous allez voir que les fumeurs dans des chambres, ils fument dans les gandas là avec les policiers, avec les armées. Donc c'est leur bande quoi. Moi je pense que le gouvernement doit chercher d'abord à assainir et avoir des policiers professionnels. Ils ne doivent pas recruter les voyous qui traînent et on les fait juste déverser à l'armée et à la police. Moi je pense que c'est c'est vraiment déplorable.
Merci. Et d'ailleurs, ce que vous avez proposé, c'est assez intéressant. Bathier, vous estimez que d'abord, il y a la responsabilité du pouvoir public qui doit sécuriser sa population, mais il faut aussi une collaboration de la population. D'ailleurs, le commissaire provincial de la police à Lubumbashi a lancé l'appel, n'est-ce pas, en demandant à la population de pouvoir collaborer avec la police dans la dénonciation, parce que ceux qui commettent les crimes, ils habitent avec la population. Il faut arriver à lancer les alertes, mais aussi pouvoir dénoncer ceux qui sont suspects dans les quartiers. Mais d'un côté, vous estimez aussi qu'il faut qu'on sache qui habite les camps militaires, les camps des policiers. On sait aujourd'hui qu'il faut arriver à identifier les vrais policiers militaires qui habitent les camps, parce qu'il s'y passe aussi beaucoup de choses, vous estimez comme ça. Et aussi les policiers qui habitent avec la population, pouvoir les identifier. Et c'est un travail de synergie, hein, population-police. On peut arriver à réduire sensiblement les cas des criminalités dans nos villes. Merci beaucoup, Bathier. Jérémy, vous êtes à Lubumbashi, dans les Haut-Katanga. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour, Monsieur Pierrot. En tout cas, félicitations pour l'alignement de ce sujet, parce que nous avons eu à les parler lorsque les députés rentraient en province. J'avais dit que chaque député trouvera sur sa table cette épineuse question sur l'insécurité. En tout cas, Lubumbashi fait peur d'y vivre. La population vit avec la peur au ventre. C'est inacceptable, monsieur Pierrot. Je pense que le chef de l'État a eu à m'atterrir là-dessus que chaque ministre devrait signer, je ne sais pas, devrait adhérer à la ligne de conduite et perçue pour ce qui concerne la performance. Moi, je pense que le ministère ayant en charge l'intérieur doit vraiment taper du poing sur ta table pour qu'il y ait vraiment de l'ordre. Sinon, M. Jody et M. Pierrot, la population peut partir en grand nombre, peut mourir comme ça en grand nombre sans que l'État ne s'en rende compte. Ça ne va pas ici à Lubumbashi. Vous vous imaginez à quelle tournure l'insécurité est en train de tourner ici. Et vous avez même des petits garçons de l'école secondaire. J'ai suivi sur une chaîne dont j'étais le nom, un enfant en troisième secondaire qui se permet d'assister dans concomitamment avec les militaires sur le plan pour entrer dans des maisons et donc tuer. Tout ça, en tout cas, il faut que l'État frappe là-dessus. On doit chercher à inculquer, à donner des notions correctes. Et les militaires qui nous entourent, qui ne sont pas dans les camps, doivent regagner leur caserne. C'est ça ce qu'il faut vraiment. Un pays qui se veut vraiment organisé doit commencer par là. Chercher à identifier qui fait quoi et qui doit rester où. Tout ça, on doit savoir. Sinon, ça ne va pas, M. Pierrot.
Et d'ailleurs, votre proposition, Jérémy, vous le dites qu'il serait mieux d'identifier les policiers et les militaires, et surtout que les militaires soient dans les casernes, hein, parce que vous le dites, vous habitez avec des militaires et des policiers, on ne sait pas identifier. Mais le cas de Lubumbashi, vous estimez qu'il faut que le ministère de l'Intérieur prenne ses responsabilités. Merci beaucoup, Jérémy. Vous êtes à Lubumbashi, où la population nous suit sur 95.8 FM. Et Pépé, vous gardez la ligne. On va d'abord revenir à notre invité, Maître Guilin, pour vous accorder la parole. 081-890-4969, c'est le numéro d'appel pour intervenir en direct dans ce magazine que vous pouvez commenter également sur la page Facebook des Paroles aux Auditeurs.
Parce que chaque citoyen a des droits et des devoirs, Radio Capi offre un espace pour la promotion des valeurs de la démocratie et du respect de l'autre. Élections, droits de l'homme, droits civiques et politiques, patriotisme, civisme, respect de biens publics, redevabilité des autorités et plus encore, nous en parlons dans votre magazine Droits et Citoyenneté. Mieux connaître vos droits pour bien les défendre, mieux connaître vos devoirs pour bien les accomplir. Tous les mardis à partir de 9h15 et 20h30, tous les jeudis à 13h30.
Pour participer à Parole aux auditeurs, 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, Pierrot et la Mégie.
Nous revenons à vous, Maître Guilin Kangebe Nizola. Vous avez suivi nos compatriotes, hein. Comment réagissez-vous face à ces différentes prises de position sur cette question des criminalités, Maître?
Oui, je crois que nous avons relativement fait l'unanimité, suivant que les problèmes sont pratiquement les mêmes. Mais je voudrais dire une chose par rapport à ce que les amis considèrent de l'absence de l'autorité de l'État.
Bon, moi, je ne suis pas plus dans les concepts qui sont quelque peu abstraits, parce que l'État, c'est tout le monde, c'est nous tous l'État. Mais il faudrait parler de représentants de l'État. Parce que dans toutes les villes, nous avons des maires, dans tous les territoires, nous avons des administrateurs des territoires et nous avons des gouverneurs dans toutes les provinces. Moi, j'aime plus que nous parlons de l'autorité de l'État dans le sens du respect de la loi. Mmh. Parce que c'est la loi qui fait l'autorité de l'État. Donc, moi, je pense que nous devons pousser les autorités à respecter les lois qui ont déjà été prises. Au lieu de voir les lois tomber en désuétude, alors que ce sont ces lois qui sont censées faire respecter l'autorité de l'État. Il y a plusieurs dispositions légales, il y a même des décrets du Premier ministre dont j'ai parlé en plus de préalable, qui prévoient des mécanismes idoines pour permettre à ce que nous soyons tous en sécurité. Mais curieusement, dans nos provinces, dans nos villes, particulièrement la ville de Matadi, vous voyez une ville qui habite plus de 4 millions d'habitants, mais il n'y a pas dans cette ville plus de 50 policiers qui soient attachés à la mairie de la ville. Vous voyez, ça pose problème. Mais nous voyons plus les policiers des roulages, parce que là, il faut traquer les chauffeurs, il faut rançonner les chauffeurs, alors que le vrai travail, c'est pas dans la rue. Le vrai travail, c'est dans la sécurisation des personnes et de leurs biens. Mais aujourd'hui, je ne sais pas pour quelle raison, les généraux dans nos différentes provinces préfèrent envoyer les policiers en nombre croissant au niveau des policiers des roulages PCR, ce qui n'est pas tout à fait correct.
Alors, mais il y a aussi cette question de la collaboration, parce que notre ami Bathier le disait tout à l'heure, il faut que le travail doit être fait aussi par la population. Cela veut dire, il y a d'abord le travail des dénonciations, il faut que la population vienne à dénoncer, mais ça c'est un autre cas. Mais l'autre cas aussi, c'est l'identification. Il y a des casernes, il y a des militaires, des policiers qui habitent avec la population, et dans cette confusion, on ne sait même pas comment les armes peuvent circuler, se retrouver entre les mains des autres personnes qui causent l'insécurité.
Justement, mon compatriote là a parfaitement raison. Il a parfaitement raison. Mais moi, je voudrais plus que nous allions dans le sens de la loi qui nous sécurise tous. Vous allez vous rappeler avec moi que lorsque je parlais du gouverneur intérimaire Marcel Matumpa, pendant qu'il fait son intérim, il y avait également beaucoup de cas d'insécurité. Et le gouverneur a lancé l'appel à la population. Et nous, les LDP, nous avons refusé d'être complices dans cette histoire d'insécurité. Nous avons travaillé à fond sur base de la loi, parce qu'il y a un décret du Premier ministre qui donne des mécanismes pour booster cette police de proximité, où on prévoit même les centres locaux de sécurité de proximité. Au niveau des communes, ils sont dirigés par des bourgmestres. Au niveau des quartiers, ils sont dirigés par des chefs de quartier. Donc, il y a un mécanisme qui a été mis en place pour réellement sécuriser la population. Mais malheureusement, les autorités, je ne sais pas si par mauvaise foi ou par inaptitude de travail, refusent de mettre toutes ces histoires en application. Alors, à notre humble avis, nous pensons que si on mettait ça en application, certainement, il y aura une légère protection de notre part. Mmh. Mais aussi, il faut... Parce que aujourd'hui, nous avons suivi avec vous à l'Inikin, on a délogé les étudiants et on a récupéré dans les hommes des étudiants, les étudiants qui, du reste, sont civils, on a retrouvé les armes de guerre. On peut s'interroger comment est-ce que ces étudiants, est-ce qu'ils sont des vrais étudiants, comment est-ce qu'ils se sont parvenus à trouver ces armes-là. Donc, il y a une forme de complicité aussi de la part de la police, qui est plutôt de la population, qui pouvait avoir quelques informations vérifiables sur l'insécurité, mais qui parfois préfère collaborer avec les malfrats au détriment de nous-mêmes populations. Moi, je crois que nous devons avoir cette culture de dénoncer. Lorsqu'il y a, des cas comme ça, il faut dénoncer. Mais ce qui est curieux, parce que j'ai suivi un de mes compatriotes dire que on est en train... On trouve des malfrats en train d'opérer avec les armes de guerre. La police vient, quelques minutes après, ces malfrats reviennent dans la même maison pour violer, pour faire des histoires, tout ça. Et c'est à ce niveau que nous devons également dénoncer non seulement la complicité de la population qui ne dénonce pas, mais aussi la complicité des autorités policières et militaires qui sont en train de mentir, parce que nous savons il y a des autorités dans l'armée comme dans la police qui fournissent des matériaux nécessaires à ces gens pour opérer, et en contrepartie, ils attendent quelque chose de ces gens-là. Donc les dividendes des crimes reviennent aussi à ces autorités-là. Et c'est pour toutes ces raisons, nous, en tant que LDIP, nous avons estimé, il ne suffirait pas simplement de condamner, mais commençons par proposer. Nous avons proposé, sur base du décret du Premier ministre qui prévoit toutes ces choses-là,
Mais curieusement, les gouverneurs intérimaires n'avaient pas fait très longtemps. Et jusqu'ici, le projet n'a jamais été exécuté. Nous pensons revoir les gouverneurs qui venaient d'être réhabilités pour cela soit mis en application parce que ça pouvait tant soit fait nous sécuriser.
C'est très important d'ailleurs parce que nous avions eu plusieurs émissions avec la police pour évoquer cette question des polices des proximités, les projets où en sommes-nous aujourd'hui. Et c'est très intéressant ce que vous avez dit, hein, dans le décret du Premier ministre, avoir des centres locaux de sécurité dans les quartiers au niveau des communes, c'est là. Mais il se pose aussi un problème, vous avez suivi, hein, les compatriotes qui reviennent sur le manque de moyens, la police, des fois même à Kinshasa, les gens qui vont se plaindre au sous-commissariat, on dit ben je suis seul ici, je n'ai pas de carburant, je ne peux pas me déplacer, je n'ai pas de crédit pour appeler. Voilà autant de problèmes qui sont chaque fois posés par la police elle-même quand la population va dans un sous-commissariat pour aller se plaindre ou soit lancer l'alerte.
Oui, justement, il y a des problèmes comme cela. Mais moi, je pense, nous avons toujours, parce qu'il ne faudrait pas que la population, tout comme nos mouvements de côté, nos mouvements citoyens, que nous restions plus dans des protestations que dans les propositions. Il faudrait faire des propositions qui soient concrètes, qui puissent permettre aussi à l'autorité d'agir. Parce que lorsqu'il n'y a pas, parce que moi, je dois toujours les rappeler, que les autorités ne sont pas parfaites, les autorités ne sont pas complètes, les autorités ont également des lacunes. Alors, nous, population, nous avons aussi les devoirs d'apporter à l'autorité des propositions, et dès lors que ces propositions ne sont pas exécutées ou sinon mises en application, c'est alors que nous allons avec objectivité réclamer les droits qui nous sont constitutionnellement garantis. Mais lorsque notre niveau, nous avons des pistes et des solutions, comme le cas de notre structure LDIP, nous avons travaillé à fond, à nos propres frais, nous avons proposé des conclusions de ces travaux à l'autorité. L'autorité les avait bien appréciées, bon, mais hélas, elle n'a pas fait longtemps au pouvoir, mais nous pensons revenir à celle qui est là parce que nous pensons que les problèmes d'insécurité aujourd'hui, cher Pierrot, ça pose réellement problème.
Voilà, c'est important, oui. Et on estime que cette fois-ci, hein, vos propositions avec le gouverneur, ils pourront être discutés parce que c'est très intéressant ce que vous avez dit. On vous garde en ligne. Il est temps d'écouter Pépé Kitakisangani au Marit à Kinshasa. Pépé, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierrot et bonjour à l'invité.
On vous écoute, Pépé.
Oui, Pierrot, par rapport à ma fille, moi, j'ai toujours deux aspects. Le premier aspect, c'est par rapport à l'emploi. D'abord, la criminalité, c'est partout au monde, c'est naturel, là, on ne peut pas échapper. Maintenant, la façon où cette histoire se fait en RDC, c'est plus pire encore au monde, donc presque partout au monde. Pourquoi? Parce que premièrement, il y a manque d'emploi. Donc, la population ne sont pas tellement équipées par les gouvernements. Aujourd'hui, s'il y a au moins 70% des gens, en majorité des jeunes qui sont embauchés, je ne crois pas si nous allons vivre ce genre de criminalité. Ça, c'est le premier aspect. Deuxième, il y a la complicité des autorités. Il y a l'ami de Kananga qui a parlé là, oh non, la police souvent, même la Kinshasa là-bas, puis on appelle la police, il n'y a pas de carburant, mais il y a souvent des choses qui se passent à quelques mètres du bureau de la police et il n'y a pas d'intervention. Vous voyez, donc, au-delà de ça, vous pouvez aussi attraper les voleurs et vous lui donner entre les mains de la police et demain, la personne, il est libéré et ça devient très dangereux pour la population, même dénoncer. C'est criminel, ça devient difficile. Pourquoi? Parce que vous pouvez dénoncer aujourd'hui, il est arrêté, et demain, avec la complicité de la police, il est relâché. Alors, ça prend contre les personnes. Donc, moi, je crois que ces deux aspects devaient être pris en charge.
Et ça, c'est très important, vous l'avez dit, hein, l'emploi, il faut que des jeunes soient employés, parce qu'aujourd'hui, tous ces jeunes qui se donnent à la criminalité, nombreux ne savent pas quoi faire. La deuxième chose, quand vous parlez de ces criminels qui sont arrêtés ou relâchés au lendemain, nous avons eu les émissions, des fois avec les magistrats qui nous ont dit, mais écoutez, la police, des fois, amène les gens au parquet, après, il n'y a pas de plaignants, on ne sait pas comment poursuivre les procès, mais il y a aussi cette question des libertés provisoires qui est revenue dans nos débats plusieurs fois et même la police des fois nous a dit mais oh, qu'est-ce que vous voulez 48 heures après la personne est transférée je crois bien au parquet et là-bas et la famille paye pour une liberté provisoire et les criminels retournent, les présumés criminels disons retournent encore dans le quartier et c'est normal qu'ils viennent aussi menacer ceux qui l'ont dénoncé et Pépé c'est très important. Alors c'est pourquoi Maître Guilin parlait de l'efficacité de la justice, ça veut dire quand la personne est arrêtée il faut qu'il soit présenté devant les juridictions, qu'il soit jugé, qu'il soit condamné. Et s'il n'y a pas de preuve, la personne, parce qu'elle est encore présumée, on peut la libérer. Mais je crois que tout ça, ça doit se faire dans une certaine efficacité qui permette à ce que la population puisse bien collaborer. Merci beaucoup Omar, vous êtes ici à Kinshasa. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour Pierre Lamégé, bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci Pierrot. D'abord, je fais mienne toutes les interventions pertinentes. Je pense, comme vous l'avez dit, actuellement dans les grandes villes de Kinshasa et de la RDC, pardon, à Kinshasa et dans les autres villes de la RDC, il y a la criminalité qui a atteint un niveau élevé. Mais je crois, comme les autres l'ont dit, la criminalité c'est un fait social, un fait inhérent à la vie des hommes. Aussi longtemps qu'on en vivra, il en sera. Mais seulement, on doit se battre pour en éradiquer. À Kinshasa, par exemple, il y a un phénomène que vous maîtrisez parce que vous êtes à Kinshasa, le phénomène Kuluna. Vous parlez des bandits à main armée. Il n'y a pas que les armes de guerre qui sont des armes, même les armes blanches aussi. Ce qui est grave, Piro, il y a même des bandits à main armée ou des Kuluna qui viennent. Pendant qu'ils sont en train de casser la maison, ils ferment les portes des autres voisins. Tout près, il y a un sociète qui observe. Donc, on se demande qu'est-ce qu'il y a au juste. Ils opèrent, ils peuvent prendre 20 minutes, ils cassent la porte, ils entrent, ils opèrent et ils sortent sans être inquiétés. Et après quelques jours, ils reviennent. Donc, à Kinshasa, c'est vraiment un fait réel. Il y a aussi des phénomènes que nous avons remarqués. Lorsque vous venez d'une banque récupérer l'argent, après, le même soir, on vient vous visiter. On se demande s'il y a une complicité entre les opérateurs de banque ou quoi. Mais comme vous l'avez dit au début, un fait criminel mérite d'être scruté afin de bien proposer. Moi, je pense, on l'a dit, et on doit marquer là-dessus, première cause de ces criminalités, c'est d'abord la faiblesse de nos forces de sécurité. Soit elles sont faibles, soit elles sont sous-équipées. Je vais vous donner des cas réels à Kinshasa. À la place Yolo Médical, une place très connue, il y a des grandes fermes qui sont là. Il y a une station d'essence, il y a un magasin des Chinois. Presque chaque année, on met des forfaits là-bas. Chaque année, je vous dis, Pierrot, on vient des gens avec des armes, ils opèrent, ils partent. Les jeunes Kuluna viennent au magasin des Chinois. Et tout près de ces deux lieux stratégiques emblématiques, il y a des sociates. On se demande, est-ce un problème d'équipement ou de complicité? Récemment, à l'avenue Sankoro, parce que j'habite tout près là, il y a une maison attachée près d'un général. Vous pouvez demander à tous ceux qui habitent près des capiers, là, ils vous diront, l'avenue Sankoro. Les Kuluna sont venus à 3h du matin, ils ont commencé à opérer des 3h à 4h, parce que la porte était très forte, ils ont abattu le chien. Les généraux et leurs voisins, son garde du corps, n'ont rien fait. C'est un fait réel, pouvez aller vérifier à la police judiciaire. Nous les dénonçons pour que les autorités policières puissent être formées. Ces gens-là ont fini d'opérer à 4 heures, ils sont partis, personne ne les a inquiétés. En fouillant même, ils ont fait tomber des objets près de la maison d'un général. Vous allez récemment ici à l'avenue Bukavu, c'est près de la place Victoire, il y a des Kuluna qui sont venus, ils ont enfermé d'autres voisins, ils ont opéré. La dame qui était attaquée a appelé les sociétés de Mabang, c'est une place connue, ils ne sont pas venus. On se demande qu'est-ce qui se passe. Récemment, à la place Victoire, on a pris l'argent à la banque de Victoire. Une dame avec une arme a commencé à tirer dessus. Il y a plein de sociétés de policiers qui rançonnent les chauffeurs. Personne n'est intervenu. Ils sont partis. Voilà pourquoi je veux que la deuxième cause, moi je pense, au-delà de la faiblesse de la police, soit qui n'a pas d'équipement, soit qui est faible, il y a aussi une complicité. Je ne peux pas comprendre que ces gens opèrent en plein centre-ville et partent facilement. On voit des documentaires en Europe. Lorsqu'il y a un forfait qui se commet après sur l'eau médicale, c'est des victoires sont alertées, c'est des magasins sont alertés, il y a des mécanismes. Mais si quelqu'un peut opérer, il sort, il abandonne la Jeep à la 7e rue, il prend la moto, il abandonne telle place et rien ne s'est fait. Donc il y a comme une complicité, on sait interne. On ne sait pas. Je vous donne un autre cas. La police nous remet chaque jour des numéros d'urgence si vous êtes victime d'une attaque appelée. Nous appelons, ils ne viennent pas. Soit ils ne viennent pas, soit ils viennent en retard. On s'est dit, c'est comme s'ils ont des contacts avec des gens qui opèrent juste quand ces gens partent et ils viennent. Donc il y a une certaine complicité qui doit être étudiée dès la faiblesse. Voilà pourquoi je voudrais chiter avec des solutions. Premièrement, il faut commencer par le renforcement de la police. C'est renforcement à trois niveaux, les renforcements humains. Il n'y a pas assez de policiers. Pour les cas dont je vous ai évoqué de Sankoro, il n'y avait que deux policiers à la société. Ils n'avaient même pas des armes. Ils avaient des trucs qu'on appelle des lacrymogènes. Il est venu, il s'est rendu compte qu'il était seul, il est rentré. Comment voulez-vous qu'un policier qui est seul fasse affaire ou fasse à beaucoup de Kuluna? Il y a un problème. Il faut renforcer en termes humains. Il faut aussi renforcer en termes logistiques. Ils n'ont pas de voiture. Comment ils vont venir? Des fois, ils manquent du carburant. L'invité l'a nié, mais c'est un fait réel. Et même, ils n'ont rien, ils n'ont pas d'armes, ils n'ont pas de munitions. Que voulez-vous que la police fasse si elle n'est pas occupée en termes logistiques? Enfin, il faut les financer. Deuxième solution, il faut redynamiser un phénomène que nous avons apprécié les forces d'autodéfense populaire. La police et l'armée n'ont pas pu mettre fin au Rwanda à Massina. Ce sont les habitants de Massina qui les ont chassés. À Beni, il y avait une certaine faiblesse de l'armée. Les jeunes de Beni ont pu mettre fin à la guerre. On a ici récemment à Kinshasa, il y avait un système d'autodéfense populaire. Les gens marchaient, ont commencé à brûler les colons là où les voleurs qu'on a attrapés. Il y avait un peu de calme. Au-delà de la police et de l'armée, au niveau de chaque quartier, il y a des gens qu'on appelle de maîtres, des sportifs. Des fois, lorsqu'ils se mobilisent, il y a un peu de paix. Trois, il faut mener des enquêtes interne, j'insiste, Pierrot. Moi, j'ai eu des discussions avec les gens de Selemba, le cadre d'une ONG. Ces gens-là ont dit, il y a des prisonniers qui sortent, qui opèrent et qui rentrent en prison. On doit enquêter sur ceux qui gèrent la prison. Il y a des prisonniers condamnés qui sortent, qui opèrent, compétent avec la police, qui opèrent. On met des enquêtes comme ça, on va chasser de la police toutes les brebis galeuses. Et enfin, moi, je pense, c'est une solution très grave, qui est peut-être draconienne, mais aux problèmes graves, des solutions graves, il faut armer la population. Parce que dans une avenue, lorsqu'il n'y a pas de ruelle pour que l'eau passe, l'eau trace elle-même son chemin. Donc, si vous ne voulez pas que la population soit armée, soyez conséquent. Mais s'il n'y a pas de solution, en tout cas, la population doit être armée. Nous en avons marre. La criminalité est un fait réel.
Merci beaucoup, Omar. Vous avez balayé vraiment, dressé un tableau avec des exemples concrets de ce qui se passe à Kinshasa. Mais nous pouvons retenir qu'il y a cette faiblesse, bien sûr, des services de sécurité. Mais il y a aussi ils sont sous-équipés. Vous l'avez dit, il n'y a pas assez de véhicules aujourd'hui pour que la police intervienne en cas d'urgence. Ils n'ont pas de moyens. Des fois, il arrive un sous-commissariat, la nuit, il n'y a qu'un policier ou deux face à une bande armée, peut-être des fois jusqu'aux dents et tout ça. Mais il y a aussi la facilité avec laquelle certains criminels opèrent dans les quartiers et la facilité avec laquelle ils se déplacent. Tout ça, c'est un problème. Ça dit qu'il faut se pencher sérieusement. C'est pourquoi notre ami Jérémy, qui appelait tout à l'heure de Lubumbashi, a beaucoup insisté sur le rôle du ministère de l'Intérieur, n'est-ce pas, à dégager les pistes des solutions. Et d'ailleurs, notre invité l'a dit, leur expérience de Matadi peut être partagée aussi avec d'autres provinces pour arriver à respecter ce que la loi dit et ce que le décret du Premier ministre dit dans ce qui concerne l'installation de comités locaux de sécurité pour résoudre cette question des criminalités, des sécurités dans nos villes. Merci beaucoup, Omar. Christian, on reste avec vous ici à Kinshasa. Bonjour.
Bonjour, Pierrot, et bonjour à l'invité.
On vous écoute.
Merci, Pierrot, de la parole que vous m'accordez. Pierrot, avant de commencer, je vous dirais que la même situation, une situation similaire, a été observée dans la ville de Bandundu. Il y a eu au moins pratiquement 20 maisons qui ont été brûlées. Et c'est en fait les forces armées congolaises qui ont venu de Kikwit, qui sont actuellement dans les bandes, nous qui ont essayé un peu d'imposer la calmie, mais sinon, jusque-là, la ville est vraiment dans une situation désastreuse. Du temps, j'allais vite pour démontrer la genèse de cette criminalité qui sévit aujourd'hui au bandes, nous, ou qu'est-ce qui était à la base, et jusqu'à aujourd'hui, toutes les conséquences, mais bon, faut du temps, je crois que prochainement, nous allons un peu expliciter. Mais sinon, Pierrot, vous savez, la plupart de ces criminels sont des jeunes. Or, en réalité, ce ne sont pas eux qui sont des vrais responsables. Les vrais responsables sont en cachette, sont peut-être des hommes politiques ou encore d'autres personnes qui sont ailleurs, qui ne font qu'alimenter ces jeunes, qui instrumentalisent ces jeunes pour que ces derniers puissent commettre ce genre de forfaits. Alors, pour que nous puissions arriver à mettre fin à ce genre de situation, à ce genre de criminalité, je crois qu'il faudrait d'abord commencer par l'encadrement de la jeunesse. Car si on n'encadre pas la jeunesse, c'est en fait c'est en quelque sorte comme une bombe en retardement. Il faudrait encadrer la jeunesse par des métiers, l'apprentissage des métiers, de sorte que ces derniers ne deviennent non seulement responsables ou productifs, mais qu'ils deviennent aussi destructeurs. Cela va permettre au pays non seulement d'avoir une main d'œuvre qualifiée, mais aussi des gens responsables qui deviennent automatiquement des agents de sécurité. Parce qu'en réalité, ceux qui doivent imposer la sécurité, ce n'est pas seulement les policiers ou les soldats, mais c'est d'abord la population. Nous l'avions vu avec l'AFDEL quand les Rwandais ont cherché à embrayer la situation dans notre pays. Au-delà de ça, Pierrot Lamé, je crois qu'il faudrait conscientiser ces jeunes. Une fois que ces jeunes seront formés, il faudra maintenant les conscientiser, les faire comprendre quel est leur rôle à jouer dans le processus du développement durable de notre pays. Et enfin, Pierrot, il faudra maintenant traquer ceux qui instrumentalisent ces policiers. Que ce soit des autorités ou je ne sais pas moi qui, il faudrait les traquer, les poursuivre et les condamner. Parce que de cette manière, nous pouvons dire que la gangrène est extirpée. Sans cela, Pierrot, nous allons toujours continuer à tourner en rond. Nous aurons peut-être la calmie pour 2-3 semaines et après quelques temps, le phénomène va ressurgir. Mmh. Dans le monde, la situation était vraiment
Bandundu était vraiment une ville paisible, mais aujourd'hui, il y a une situation qui continue à terroriser la population à cause des intérêts partisans des hommes politiques. Je crois que prochainement, dans une émission plus élaborée, nous allons détailler la genèse de ces faits qui se vivent à Bandundu.
Merci beaucoup, Christian. D'ailleurs, vous estimez aussi qu'il y a des cas de criminalité qui ont des tireurs de ficelles, hein, parce que vous avez suivi avec les troubles à l'université de Kinshasa. Beaucoup de gens ont dénoncé qu'il y a des tireurs de ficelles, qu'il y a bien sûr des infiltrations. Et rappelons que dans le Haut-Katanga, à Lubumbashi, quand des criminels présumés ont été présentés à la presse, on a vu des hommes en tenue militaire et les autres en tenue de la police. Et ça aussi, c'est une grande préoccupation. Alors, vous l'avez dit, il faut donner de l'emploi aux jeunes, il faut créer des centres de formation. Mais d'un côté aussi, il faut mener des enquêtes pour savoir où est-ce que ces criminels tirent leurs forces et les armes qu'ils utilisent pour opérer dans nos villes. Michel, vous êtes en Bandaka. Bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Merci Pierre et Lamézi. Bonjour à vous et à tous les auditeurs qui nous suivent à ce moment.
On vous écoute, oui.
Voilà, la situation actuelle en Bandaka, ces derniers temps, on voit qu'il y a quand même la diminution malgré certains cas de vol et même de la tuerie. On a enregistré ces derniers temps. Donc on a tué un taximen à quelques kilomètres de Bandaka. Il y a aussi des cas de vol, un enseignant comme ça. Il avait réussi son argent et les bandits ont pénétré la maison pour lui ravir tout son argent et autres biens. Alors, si c'est là, ces genres de pratiques prennent l'ampleur dans la ville de Mbandaka, je peux citer, il y a quelques raisons, notamment, il y a la diminution de l'effectif de la police, il y a aussi la distance qui sépare les postes de la police, ça joue un rôle très capital. Il y a aussi un problème de formation de la police. Vous verrez un petit comme ça ou un ami, le matin, vous êtes avec lui, demain, il porte la tenue direct avec une arme et comme ça. C'est quelque chose de déplorable que le gouvernement doit prendre en considération. Ce n'est pas comme ça de ce genre. La police, c'est quelqu'un qui a le devoir de surveiller ou de veiller sur le bien et la population. La population, c'est bien voulu, je veux dire. Mais aujourd'hui, vous ramassez quelqu'un qui n'est même pas formé, même pas une semaine, vous lui donnez la tenue et une arme. Qu'est-ce qu'il va faire? C'est vraiment regrettable. Il y a encore le problème de bouclage. Quand on était encore gosse, on voyait ça, dans quel quartier on fait le bouclage, que personne ne sort, on entre dans chaque maison pour vérifier qu'est-ce que vous avez comme des armes blanches et tout qu'on sort. Mais ces derniers temps, on n'insiste pas de ce genre de bouclage. Pourquoi l'État congolais a abandonné son peuple? C'est vraiment quelque chose de déplorable.
Et ça, c'est très important. Merci beaucoup, Michel. Vous avez soulevé les cas importants, c'est la distance qui sépare, n'est-ce pas, un sous-commissariat de la police avec un autre. Vous estimez qu'il faut plus rapprocher la police de la population, c'est important, mais en Bandaka et ailleurs, à l'arrière-pays, on pose souvent ces problèmes de ceux qui sont recrutés dans la police. Vous l'avez dit, quelques temps après, quelqu'un a déjà la tenue et demain il porte l'arme, c'est un problème. S'il n'est pas assez formé, lui-même il peut devenir source d'insécurité. Merci beaucoup. On va terminer avec vous, Justin, vous êtes à Fungourou, mais revenir à notre invité, Maître Guilhem, pour conclure cet échange. Justin, en une minute, hein, bonjour et bienvenue dans Parole aux auditeurs.
Bonjour mon ami Pierrot, et je dis bonjour à tous les auditeurs de la radio Kati.
Et en bref, on vous écoute, oui.
Oui, c'est très pertinent ici à Fungourou, mais quand les bandits ont fui Lubumbashi, ils ont fui Kolwezi, des grands centres, ils sont venus se réfugier ici à Fungourou, mais là, ils sont en train d'opérer dans l'air, dans toute quiétude, et depuis qu'ils ont commencé à opérer, et personne n'a mis la main sur eux. Il y a une confusion totale. Il y a les hommes en uniforme armé et les civils aussi armés. Vous voyez quelqu'un qui porte seulement la tenue civile, mais si vous voyez derrière et comme ça, il y a les tuyaux, les canons qui est sorti derrière son veste, je ne sais pas. Celui-là sera appelé bandit ou il sera appelé militaire. Et les autorités ne savent pas même mettre la main sur un bandit. Pourquoi? Parce qu'il y a une des armes en désordre, des munitions. Et je ne sais pas même si les autorités savent même le nombre de munitions qu'on a envoyées ici à Fungurume et même le nombre des armes. Mm-hmm. Il y a les policiers et les militaires qui sont en train de sécuriser les montagnes pour les creusers et les gens aussi commis à la sécurité. Et par contre, on commence à donner les numéros de téléphone d'appel. Donc ça devient comme la MONUSCO, ils ne sécurisent pas la population, ils attendent afin qu'on puisse les appeler. Quelqu'un qui termine à appeler, quand il entre dans une maison, la première des choses, il ravit le téléphone des gens qu'il va trouver dans la maison et il termine ses opérations, il viole les enfants, les femmes et il s'en part. Même au moment que je vous parle, il y a les gens qui sont sur les lits des hôpitaux qui ont été tués de balles récemment là. C'est un cas qui s'est dit ici à Fungurume. Les bandits qu'on parlait...
Et vous l'avez dit, Justin, les bandits ont fui, après les opérations, ils ont fui Lubumbashi au Kolwezi pour se réfugier à Fungurume. Mais un autre cas, vous l'avez dit, hein, des hommes armés, des hommes qui ont des armes, mais qui ne sont pas en tenue ni policière, ni militaire. Quelqu'un a une jaquette avec une arme. On voit, bien sûr, les canons de son arme assorti. Alors, vous vous demandez, on ne sait pas pourquoi ils portent des armes alors qu'ils n'ont pas des tenues. Voilà autant de cas qu'il faut résoudre aujourd'hui. Alors, on revient à vous, Maître Guilain Kangibeni, pour conclure cet échange. On a suivi les uns et les autres en un mot pour terminer notre débat de séjour sur la criminalité.
Oui, pour conclure, je crois que je conclurai à trois volets. Le tout premier volet, c'est la prise de conscience des autorités politico-administratives qui sont censées respecter les lois du pays, parce que nous avons beaucoup de lois, mais lesquelles malheureusement sont tombées en désuétude par le fait qu'elles ne soient pas appliquées. Alors nous devons les appliquer pour le respect de l'autorité de l'État. Et le deuxième volet va concerner la population qui ne doit pas rester complice lorsqu'il y a des actes de criminalité. Et il ne suffit pas seulement de crier au Kuluna. Non, parce que Kuluna au Congo n'est pas une infraction. Il faudrait dire à l'autorité judiciaire ou policière qui doit entendre, qui doit verbaliser les malfrats, qu'il a commis tel ou tel autre fait. Mmh. Alors, on saura se faire une idée sur l'infraction qu'il a commis. On saura rattacher le fait à la précision du code pénal. Et non pas crier simplement « Kuluna, Kuluna, Kuluna n'est pas une infraction ». Et je pense, je vais également, au troisième volet, je vais plus interpeller les policiers qui sont censés, ou les généraux plutôt, les généraux de police sur toute l'étendue de la République. Aujourd'hui, nous constatons dans nos provinces, il y a plus de policiers de roulage que de policiers qui soient mis à la disposition de la population. Je pense qu'à ce stade, on pouvait bien réduire le nombre de policiers de roulage qui, en réalité, ne font pas un travail appréciable. Je pense qu'on devrait plus accorder un nombre important aux policiers qui sont chargés de sécuriser les personnes et leurs biens.
Merci.
Et
leur bien. Voilà. Merci beaucoup, Maître Guilain Kangibeni Zola. Vous êtes du lobbying pour la défense des intérêts du peuple. C'est très important, vous l'avez dit. Il faut arriver à la prise de conscience. La population doit éviter la complicité. Elle doit dénoncer, mais il faut vous interpeller aussi, les commissaires provinciaux de la police. Il faut diminuer le nombre de policiers de circulation routière et augmenter ceux qui doivent sécuriser les personnes et leurs biens. Merci beaucoup. Merci à Jean-Noël Mokondo qui était à la mise en œuvre de ce magazine réalisé par Nico Kalambay. Parole aux auditeurs, c'est aussi sur www.radiocapi.net. On se retrouve demain pour un autre numéro des Paroles aux auditeurs. Passez d'agréables moments en compagnie de Radio Capi. Merci surtout de votre fidélité. Au revoir.